En attendant, le journal de 8h vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Une dernière soirée de calme avant la tempête. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron en tête à tête pour un dîner de travail ce soir, à la veille du premier conseil des ministres et avant une rentrée qui s'annonce pleine de défis et de risques pour le chef de l'État Alexis de La Fontaine.
Une rentrée qu'Emmanuel Macron aborde très sereinement, affirme l'un de ses proches, qui souligne que le chef de l'État en a vu d'autres depuis 2017. Le président est toutefois totalement lucide sur les défis des prochains mois, assure un autre conseiller. Ce soir, à l'Élysée, l'essentiel de la discussion entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne portera sur les grands chantiers de la rentrée. La priorité pour le chef de l'État, c'est la planification écologique, après un été marqué par de nombreuses catastrophes naturelles. L'autre urgence, le pouvoir d'achat des Français et la sobriété énergétique face à une inflation galopante et un risque sérieux de pénurie de gaz dans les prochains mois. Enfin, la bataille pour le plein emploi et l'éducation seront les autres points principaux abordés lors de ce tête-à-tête. Accusé par les oppositions d'avancer sans cap, Emmanuel Macron répond être très clair depuis sa réélection. Il entend mener trois grandes batailles lors de ce second quinquennat, le climat, la souveraineté nationale et l'égalité des chances.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
À la une de l'actualité également ce matin, je vous le disais dans les titres, des militaires pour encadrer les jeunes délinquants. C'est l'annonce faite par Gérald Darmanin à Mayotte.
Oui, annonce qui promet de faire débat, hein, une alternative à la prison pour les mineurs, selon le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui a cité hier d'ailleurs les témoignages de gendarmes, selon qui des enfants de 11, 10 ou 9 ans les attaquaient armés de machettes et de haches. Pour Gérald Darmanin, il leur faut un encadrement afin de retrouver le droit chemin. Écoutez.
J'ai annoncé tout à l'heure que dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Et j'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui. L'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Les vidéos ont été supprimées sur Internet. L'émission Koh-Lantès de la prison de Fresnes a été effacée.
Oui, et la polémique, malgré tout, continue d'enfler. On a appris cette nuit qu'au moins un détenu ayant participé à ce programme a été condamné à plusieurs reprises et à de lourdes peines, dont une pour viol. L'organisateur de ces jeux avait pourtant assuré que les participants n'étaient détenus que pour de courtes peines.
Une autre polémique qui concerne maintenant la plateforme Doctolib. Elle a annoncé hier avoir suspendu les profils de 17 praticiens liés à la naturopathie Irène Grosjean.
Oui, sur YouTube, cette praticienne de 92 ans faisait la promotion d'attouchements sexuels pour soigner les enfants en bas âge. Des propos qui engagent la responsabilité de Doctolib. Le site a donc réagi. Il a suspendu cette naturopathe et d'autres de ses collègues. Une décision dont se satisfait Jérôme Marty. Il est le président de l'Union française pour une médecine libre.
Ils ne sont pas dans la liste définie par le Code de santé publique comme profession de santé. La médecine, c'est une chose sérieuse, ça ne doit pas être laissé aux gourous, aux charlatans. Toutes ces espèces de professions qui sont là pour pomper du pognon à des gens qui sont dans le doute ou dans la peur, n'ont rien à faire sur une plateforme qui est une plateforme qui, normalement, doit mettre en relation les gens avec des professionnels de santé. Le Doctolib est tout à fait à même et a les possibilités de le faire, de créer une plateforme séparée, spécifique à eux, qui fasse un charlolib, un charlolib, un guignol lib, mais Doctolib, c'est réservé aux professionnels de santé, c'est comme ça, quoi.
Le docteur Jérôme Marty au micro Europe 1 de Christophe Bordet.
8h05 sur Europe 1. La rentrée, avec ou sans prof, c'est la grande question. 4000 postes d'enseignants sont encore vacants aujourd'hui.
Oui, et pour boucher les trous, les rectorats ont tout misé sur les contractuels dans l'académie de Créteil, où se rend le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, ce matin. 1000 enseignants non diplômés ont été recrutés cet été, mais c'est loin de suffire pour faire face à cette année particulièrement difficile, Louise Salé.
Oui, pour cette rentrée, près de la moitié des enseignants sont contractuels. C'est du jamais vu, même si l'académie se retrouve souvent dans une situation délicate. Car Créteil attire peu de jeunes professeurs. Louis Vatin y enseigne les maths. Il préside le syndicat national des lycées et collèges.
On n'a pas l'habitude d'une rentrée qui se déroule comme sur des roulettes. On a l'habitude quand même qu'il y ait toujours des postes vacants, des professeurs qui ne viennent pas. Ça peut être des démissions, ça peut être des gens qui ont une affectation dans le supérieur.
Les enfants pâtissent de cette pénurie. Les remplaçants remplaçants contractuels donc ou vacataires sont ballottés de classe en classe au gré des besoins. Yoann Georgette est parent d'élève d'une fille de 9 ans dans le Val-de-Marne.
Elle a eu 13 profs en tout dans l'année avec des remplacements d'une journée, deux journées. Une enfant qui était très scolaire est devenue réfractaire à l'école. Ça peut créer un problème psychologique chez l'enfant qui se répercute forcément chez nous dans les familles. On a bien conscience que la rentrée va être compliquée. Pour pallier à une grosse maladie, on va mettre des pansements. On va prendre des vacataires qui n'ont pas la formation. Nous, on ne veut pas un adulte devant chaque enfant, on veut un prof devant chaque enfant.
D'après les syndicats, un prof devant chaque classe à la rentrée, c'est peut-être possible pour la première semaine de cours. Mais aussi bien dans le premier que le second degré à Créteil, ce sera très difficile ensuite, dès qu'un arrêt maladie ou un congé maternité se déclarera.
Louise Salé.
Alors on va continuer à parler de la rentrée des classes, mais on va prendre la direction de la Chine avec une rentrée sous étroite surveillance et des stylos espions qui sont distribués aux enfants.
Oui, alors on les appelle stylos intelligents parce qu'ils sont capables d'enregistrer les prises de notes des élèves et de se connecter automatiquement aux enseignants. Sébastien Lebelzik, l'école numérique en Chine, c'est une école version Big Brother.
Ces stylos espions seront dans les trousses des écoliers chinois dès la rentrée. Il s'agit d'un stylo connecté équipé d'une mini-caméra qui filme les prises de notes des élèves et transmet les images en temps réel à l'enseignant. Celui-ci peut ainsi suivre le travail de chacun, mais aussi corriger les devoirs, car ce petit stylo que l'on dit intelligent télécharge automatiquement les pages de notes vers un serveur informatique que le professeur peut ensuite consulter et corriger. Ce stylo nouvelle génération fait partie d'un vaste programme, sorte de cartable 2.0 appelé Plan National d'Information. Informatisation du système éducatif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce plan mobilise tous les outils de surveillance dont dispose la Chine, et ils sont nombreux. Ainsi, la reconnaissance faciale qui permet de vérifier l'identité de chaque élève à l'entrée des établissements, des casques que l'on porte parfois pendant les cours et qui mesurent l'activité cérébrale des enfants, et des caméras dans les salles de classe capables d'analyser les visages pour savoir si un élève est actif ou si au contraire, il a une folle envie de dormir. Une panoplie qui ne fait pas l'unanimité chez les enfants comme chez les parents, où l'on s'inquiète de voir les salles de classe ressembler à des tours de contrôle. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Retour en France où les librairies sont en pleine rentrée littéraire. Une autre rentrée.
Ah oui, encore une. C'est l'événement éditorial de l'année en même temps. Des centaines de nouveaux romans qui débarquent tous en même temps. C'est un moment fort mais très éprouvant chez les libraires que Nicolas Caro est allé rencontrer.
À la librairie L'Instant, une petite surface de 60 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris, c'est le branle-bas de combat pour Sandrine Babu. Pour l'instant, c'est calme, les clients ne sont pas encore rentrés de vacances, et tant mieux puisqu'il y a du pain sur la planche, comme chaque année, et de l'enthousiasme aussi, Sandrine Babu.
Tous les ans, on se dit, bon allez, c'est la rentrée littéraire, on va avoir des centaines de livres, encore des livres, ce qu'on a encore vraiment besoin, et puis on commence à en lire un, deux, trois, et on est, enfin, moi je suis hyper contente, j'ai découvert déjà des beaux textes, donc en fait c'est un bon moment quand même. Par contre, la partie logistique est très longue.
Ce sont les cartons qui sont lourds et livrés tous les jours. Il faut faire des choix. Beaucoup de romans passeront inaperçus. Certains ne seront même pas posés sur les tables des libraires. Mais les premières victimes, ce sont les romans du premier semestre. Les invendus sont renvoyés à l'éditeur.
On ne fait jamais autant de place que ce qu'il faudrait. Et là, la semaine dernière, quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'étais très loin du compte. Donc là, ça ne se voit pas à la radio, mais il y a des piles de livres sur les tables qui vont repartir chez les éditeurs. Et j'ai fait de la place pour tout ce qui arrive, sachant qu'on a eu notre première semaine donc, de nouveautés, mais ça continue cette semaine et la semaine prochaine, voilà, donc on est loin du compte encore.
En tout, 490 romans pour cette rentrée littéraire 2022.
Ah ben, on aura pas mal de choses à lire. Nicolas Caro.
Oui, effectivement, il va falloir faire des choix. C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, vous revenez tout à l'heure à 9h.
À tout à l'heure.